Chapitre 24. New York, commissariat du 87e Precinct. Santos récupéra son gobelet dans le distributeur automatique. Le soleil n'était pas encore levé sur Brooklyn, mais le lieutenant en était déjà à son troisième café. Une fois de plus, la nuit avait été agitée, cambriolage, violence conjugale, magasin mis à sac, prostituées interpellées. Depuis 10 ans, les médias donnaient toujours de New York l'image d'une ville pacifiée et sécurisée. C'était sans doute vrai au cœur de Manhattan, mais ça l'était moins dans sa banlieue. Par manque de place dans les cellules, le couloir où se trouvait le distributeur de boissons ressemblait à un centre de réfugiés. Prévenus menottés aux bancs métalliques, témoins serrés comme des sardines sur des banquettes éventrées, plaignant enroulés dans des couvertures. Le corridor était éclairé par des néons blafards et grésillants. Ça sentait mauvais, ça hurlait. Tout le monde était tendu à cran. Santos quitta ce cloaque pour se réfugier dans son bureau. Il détestait ce commissariat sale, bruyant, et n'avait pas l'intention d'y terminer sa carrière. Son espace de travail était à l'avenant. Un petit bureau exigu, peu fonctionnel et mal isolé avec vue sur une courette sordide. Il but une gorgée de café Lavaz et croqua dans un donut rassis qu'il eut du mal à avaler. Après avoir jeté la pâtisserie dans la corbeille, il décrocha son téléphone pour appeler le laboratoire qui s'occupait des analyses toxicologiques. Le laborantin valida son intuition. La poudre trouvée chez Nikki était bien de la cocaïne. Il mit ce dossier de côté et profita qu'il était en ligne pour demander à parler à Hans Tinker. Au fil des années, Santos avait su se constituer un réseau impressionnant. Dans les différents services de la nébuleuse et tentaculaire NYPD, nombreux étaient ceux qui lui étaient redevables d'un coup de main. Chez lui, c'était une seconde nature. Chaque fois qu'il pouvait aider un collègue, il le faisait. À court terme, cela paraissait désintéressé, mais venait toujours un moment où il avait l'occasion de récolter les fruits de son investissement. « Tinker, j'écoute. » Hans Tinker, le directeur adjoint des services de police scientifique, était peut-être son contact le plus intéressant. 2 ans plus tôt, au hasard d'un contrôle, les gars de Santos avaient serré le fils aîné de Tinker, alors en pleine crise d'adolescence, avec une quantité déraisonnable de shit. Visiblement, le fiston ne se contentait pas de crapoter dans sa chambre, mais devait aussi dealer pour ses copains. Santos avait fermé les yeux et classé l'affaire. Depuis, Tinker lui vouait une reconnaissance infinie. « Salut Hans, tu as du nouveau sur mon double homicide ?»«
On avance, mais ça va être long. » Il y a 1 million d'empreintes sur cette scène de crime et il faut faire les analyses génétiques.
Je comprends. Mais j'ai besoin de façon urgente de connaître les empreintes présentes sur le cabas, le morceau de verre affilé et la queue de billard.
Celles-ci, je les ai. Je te fais parvenir un rapport dans 2 heures.
Non, pas la peine. Balance-moi les données brutes par mail. Je veux les confronter à l'IAFIS le plus vite possible.
Son ordinateur portable sous le bras, Madantini toqua contre la vitre et passa une tête dans l'embrasure de la porte. Santos lui fit signe d'approcher. L'adjoint attendit que son patron ait raccroché pour lui annoncer
« On a du nouveau, lieutenant. J'ai pu récupérer l'appel passé au 911, écoutez ça. »
Il ouvrit son notebook et lança le fichier audio. L'enregistrement était bref. On y entendait un homme, visiblement paniqué, refusant de donner son identité, mais réclamant d'urgence une ambulance à l'adresse du boomerang.
« Il y a un homme à l'agonie. Il est lardé de coups de couteau. Venez vite, venez vite !»«
Bizarre qu'il n'évoque qu'un seul corps, non ?» demanda Mazzantini.
Santos ne répondit pas. Où avait-il déjà entendu cette voix ?«
On a tracé l'appel ?» continua son adjoint. « Le téléphone appartient à Sébastien Larrabee, un riche luthier habitant l'Upper East Side. J'ai vérifié son casier, il est blanc comme neige. Enfin, presque. Une seule condamnation pour rébellion à agent après un contrôle de police lors d'un excès de vitesse quand le type était encore à l'université. À mon avis, il ne sait même pas qu'il est fiché. »
Le visage de Santos se décomposa.
« J'envoie une équipe pour l'appréhender, patron ?»
Santos acquiesça en silence. Il savait que Sébastien était à Paris, mais il avait besoin de temps pour réfléchir.
« Ok, allez-y, » ordonna-t-il en fermant la porte derrière Mazzantini.
Les yeux dans le vague, il se posta devant la fenêtre. Cette révélation le laissait abasourdi. Que venait faire Sébastien Larrabee au milieu de l'affaire Drake Dacre ?
Le sifflement bref, notifiant l'arrivée d'un courrier électronique, le sortit de sa réflexion. Il s'installa devant son écran et consulta sa messagerie. C'était le mail de Tinker concernant les relevés d'empreintes digitales.
Les techniciens de la scientifique avaient bien fait leur boulot. Pour chaque pièce à conviction, les dactylogrammes étaient nets, prêts à être utilisés. Santos les enregistra sur son disque dur et se connecta aux fichiers intégrés et automatisés des empreintes digitales. Les enquêteurs de la police de New York avaient un accès direct aux bases de données du FBI, en particulier le fameux IAFIS. Une mine d'or répertoriant plus de 70 millions de personnes fichées, arrêtées ou condamnées sur le territoire américain. Il commença par les empreintes trouvées sur le couteau de combat. L'algorithme se mit en route, balayant la base de données à une vitesse supersonique. Match not found. Pas de correspondance. Premier coup dans l'eau. Il poursuivit avec le dactylogramme trouvé sur le long morceau de verre ensanglanté, l'arme qui, selon toute logique, avait servi à tuer le tatoué. Cette fois, Santos eut plus de chance. Moins d'une seconde plus tard, le programme délivra une réponse. Les empreintes étaient celles de Sébastien Larrabee. Dans la foulée, il lança la comparaison avec celle relevée sur la canne du billard. Presque instantanément, l'écran se figea sur la photo d'une jeune femme. Les mains tremblantes, Santos lança l'impression de l'affiche. Nom, Nikovski. Prénom, Nikki. Né le 24 août 1970 à Détroit, Michigan. Divorcé de M. Sébastien Larrabee. Dans les années 1990, Nikki avait été arrêté à plusieurs reprises pour différents vols, ivresse sur la voie publique et possession de stupéfiants. Si elle n'avait jamais été incarcérée, elle avait payé de multiples amendes et effectué plusieurs dizaines d'heures de travaux d'intérêt général. Sa dernière infraction remontait à 1999. Depuis, elle s'était tenue tranquille. Santos sentit son rythme cardiaque s'emballer. Dans quelle histoire Nikki était-elle allée se fourrer? Vu son dossier, toute la faute allait être reportée sur elle. Heureusement, il avait les cartes en main. En manœuvrant astucieusement, il pourrait peut-être même récupérer la femme qu'il aimait et se débarrasser une fois pour toutes de Larrabee. Laissant de côté ce qui pouvait incriminer Nikki, il rassembla avec soin toutes les preuves à charge contre Sébastien. L'appel téléphonique au 911, les empreintes sur l'arme du crime, le billet d'avion pour Paris qui caractérisait le délit de fuite. Le dossier était solide. Assez peut-être pour convaincre un juge de lancer dans l'urgence une commission rogatoire internationale. Pour mettre de l'huile sur le feu, il allait distiller quelques informations dans des organes de presse bien choisis. Un notable en fuite à Paris après un assassinat dans un tripot, les médias allaient adorer. Les Larrabee étaient une vieille famille new-yorkaise respectable, mais en cette période de crise, les tenants du pouvoir économique n'étaient plus intouchables. Au contraire. Depuis plus d'un an, le mouvement des indignés criait sa colère contre Wall Street. À plusieurs reprises, des centaines de manifestants avaient bloqué le pont de Brooklyn. L'exaspération de la classe moyenne grandissait et se propageait à travers le pays. Les temps changeaient. Les puissants d'hier ne seraient pas ceux de demain. De plus, Sébastien Larrabee n'était pas un fugitif aguerri. Dès que son arrestation serait ordonnée, il se ferait cueillir comme un bleu.